Vous écoutez, on lit pour vous.
L'humanité échoue dans la lutte contre le fléau du plastique. Qu'est-ce qui bloque ? Un texte d'Alexandre Shields, paru le 15 août 2025 dans Le Devoir. Près de 3 ans après le début des négociations sur un traité mondial de lutte contre la pollution par le plastique, l'humanité a échoué, le projet d'accord ayant été torpillé par des pays partisans des énergies fossiles qui servent à produire cette matière devenue un véritable fléau pour l'environnement et la santé humaine. Les transactions doivent reprendre, mais on ignore quand et comment. Les données parlent pourtant d'elles-mêmes. La production mondiale de plastique est en croissance constante. Elle dépasse aujourd'hui les 450 millions de tonnes par année et elle pourrait tripler d'ici 2050. Or, moins de 10% de ces déchets sont recyclés, y compris au Canada. Le reste aboutit au dépotoir, est brûlé ou se retrouve dans la nature. Le problème est tel qu'on retrouve des microplastiques jusque dans le cerveau humain et le lait maternel. Il y a urgence de s'attaquer au problème, ont répété au cours des derniers jours à Genève plusieurs pays, des scientifiques et les groupes écologistes. Mais une poignée de pays, guidés par des intérêts financiers de court terme et non par la santé de leur population et la durabilité de leur économie, ont bloqué l'adoption d'un traité ambitieux, a déploré la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, résumant un sentiment partagé par plusieurs à la suite des négociations réunissant les représentants de 185 pays en Suisse. Les pays guidés par des intérêts financiers de court terme, ce sont essentiellement des partisans de la production d'énergie fossile, comme l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Iran ou encore les États-Unis. Il faut dire que pour l'industrie pétrolière et gazière, l'appétit pour le plastique est une bonne nouvelle. Sa production accapare aujourd'hui 12% de la demande pétrolière mondiale et plus de 8% de la demande en gaz naturel, selon des données provenant d'une étude réalisée par le laboratoire national Lawrence Berkeley, géré par l'Université de la Californie. Dans ce contexte, les États pétroliers ont refusé toute proposition d'accord qui aurait tenu compte de l'ensemble du cycle de vie du plastique, y compris donc le niveau de production mondiale et l'utilisation de molécules jugées dangereuses pour l'environnement ou la santé humaine. Ils avaient d'ailleurs des alliés sur place, puisque le Center for International Environmental Law a comptabilisé au moins 234 lobbyistes de l'industrie des énergies fossiles inscrits comme participants à cette séance de négociation. Face à eux, les membres de la coalition de haute ambition, 70 pays dont le Canada, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine et d'Afrique, ont tenté en vain de faire atterrir un projet d'accord suffisamment ambitieux pour réduire les effets du plastique pour l'humanité, y compris ses conséquences pour le climat. Les émissions de gaz à effet de serre, GES, découlant de cette production dépassent déjà les 2,25 milliards de tonnes et devraient grimper pour atteindre jusqu'à 6,8 milliards de tonnes en 2050. C'est l'équivalent de 1700 centrales au charbon. Négociation difficile. Dans le cadre d'une séance de bilan vendredi, des représentants du gouvernement du Canada qui étaient présents à Genève ont soutenu que dans les circonstances, l'absence d'accord valait mieux qu'un accord dilué. Nous savions que ne pas signer un mauvais traité était mieux que de simplement obtenir un traité faible, a fait valoir un porte-parole que les médias n'étaient pas autorisés à nommer. Je crois que certains pays, dont les positions différaient de celles du Canada, croyaient qu'on accepterait n'importe quel traité, juste pour montrer qu'on fait quelque chose, mais ils se sont trompés, a ajouté ce même intervenant. C'est une des négociations les plus difficiles auxquelles j'ai participé, a-t-il aussi admis, ajoutant que cette ronde diplomatique ne serait pas la dernière, même si on ignore pour le moment quand les tractations pourront reprendre. Nous vivons dans une période politique et géopolitique complexe, et en plus, le multilatéralisme est sous tension. A résumé pour sa part la diplomate chevronnée Inger Andersen, directrice exécutive du programme des Nations Unies pour l'environnement. Professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM et expert du droit international de l'environnement, Alexandre Lillo déplore l'incapacité de l'humanité à agir pour lutter contre la crise environnementale imputable au plastique. Les faits sont réellement évidents, que je n'arrive pas à comprendre la position de certains qui font du négationnisme. Selon lui, la solution pour dénouer l'impasse pourrait passer par la volonté des pays qui veulent agir avec ou sans ceux qui ont bloqué la conclusion d'un traité à Genève. La grande majorité des gouvernements veulent un accord fort, mais une poignée d'acteurs mal intentionnés ont été autorisés à utiliser le processus pour réduire à néant cette ambition. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose et espérer un résultat différent. Hésiter n'est plus une option, a fait valoir Greenpeace vendredi. Mettre fin à la pollution plastique signifie s'attaquer de front aux intérêts des énergies fossiles. Directrice générale pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki, Saba Khan était sur place à Genève, où elle a constaté les blocages de certains acteurs. « On assiste à un épuisement ressenti à travers le monde », alors que les négociations se terminent sur les mêmes obstructions et impasses. Il est temps que les pays ambitieux nous proposent une voie alternative. C'était « L'humanité échoue dans la lutte contre le fléau du plastique. Qu'est-ce qui bloque ?» Un texte d'Alexandre Shields, paru le 15 août 2025 dans Le Devoir.
Bien composer son assiette pour résister aux agressions. Un texte de Sylvie Boitard et Cécile Coumeau, paru le 27 mars 2025 dans Science et Avenir. Renforcer sa défense, c'est aussi agir sur son alimentation. Variée et diversifiée, elle apporte tous les nutriments nécessaires, essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Kiwi riche en vitamine C pour prévenir les infections virales. Thé aux champignons pour renforcer sa défense anticancéreuse. Infusion de gingembre pour stimuler son immunité. Au-delà de ces allégations à but commercial, les laboratoires mettent en lumière plusieurs liens entre alimentation et immunité. Manquer de certains nutriments ou micronutriments peut en effet rendre plus fragile face aux diverses agressions, virus, bactéries, etc., en altérant la production de certaines cellules immunitaires, pose Adrien Rossari, chercheur dans l'unité de nutrition humaine, INRA, Université Clermont-Auvergne. Une carence peut aussi favoriser une inflammation de bas grade, laquelle est reconnue comme une voie vers de nombreuses pathologies, affections cardiaques, obésité, diabète. Changer d'alimentation pourrait ainsi modifier le statut immunitaire, comme l'ont constaté aux États-Unis des chercheurs de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, NIED, en collaboration avec l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales, NIDDK. En proposant à 20 adultes de suivre pendant 2 semaines un régime cétogène, riche en lipides et faible en sucre, ou végétalien, sans produits d'origine animale, riche en fibres et pauvre en graisse, les chercheurs américains ont constaté dans leurs travaux, parus en 2024 dans Nature Medicine, que le passage à l'un ou l'autre régime alimentaire était lié à des changements évidents dans le nombre de cellules immunitaires. Ne pas faire l'impasse sur les protéines. Avec le régime cétogène, les quantités et l'activité des lymphocytes T et B, des globules blancs de l'immunité adaptative, ont augmenté, tandis que les personnes qui suivaient un régime végétalien ont constaté une amélioration des réponses immunitaires innées non spécifiques. De quoi encourager les chercheurs à poursuivre dans cette voie, avec toutefois une nuance en tête. La littérature montre qu'il n'existe pas d'aliments miracles, fait remarquer Adrien Rossari. C'est à travers une alimentation diverse et variée que l'organisme peut puiser les nutriments dont il a besoin pour soutenir le système immunitaire. Et la viande rouge ne fait pas exception à cet état de fait. Si elle est une source d'acides gras saturés et d'oméga-6, qui, consommés en excès, sont pro-inflammatoires, une carence en acides aminés, composant des protéines, rend en revanche le système immunitaire moins efficace. Pour contrer une infection virale ou bactérienne, l'organisme a besoin de protéines pour fabriquer très rapidement de nouvelles cellules leucocytaires par million, précise Adrien Rossari. Veaux, bœufs, agneaux et foie sont bien dotés en fer, dont un déficit rend plus vulnérables aux infections. La viande rouge, la volaille et les abats sont aussi une bonne source de vitamine B12, utile au bon fonctionnement de certains lymphocytes T et de zinc, un cofacteur de la synthèse des protéines. Côté fruits et légumes, leur richesse en fibres prébiotiques nourrit les bactéries intestinales. Ils soutiennent ainsi le microbiote et contribuent à diminuer l'état inflammatoire de bas grade. Ils sont aussi bien pourvus en composés antioxydants, polyphénols, vitamine C, sélénium, zinc, qui luttent contre le stress oxydatif déclencheur de l'inflammation. La provitamine A, mangue, carotte, potiron, etc., aide même à réguler le nombre et la fonction des cellules « natural killers », NK, des globules blancs capables d'identifier les cellules infectées ou cancéreuses et de les détruire. Légumes, fruits frais et à coque apportent aussi de la vitamine E, fruits rouges, pommes, laquelle entre dans la composition de la membrane des cellules immunitaires. De son côté, la vitamine C, agrumes, kiwi, soutient notamment la migration des globules blancs vers les sites d'infection et la production d'anticorps. Autre apport alimentaire incontournable pour une immunité performante, les poissons gras et les fruits de mer. Saumon, maquereau et sardines sont ainsi riches en acides gras polyinsaturés de type oméga-3, connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires. Selon des travaux japonais, ils donneraient naissance aux protectines, des molécules pouvant atténuer la réplication du virus de la grippe. Miser sur les aliments lacto-fermentés. Les fruits de mer, huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules, etc., sont, eux, riches en sélénium et en zinc, deux puissants antioxydants. Le sélénium augmente notamment l'activité des cellules NK, tandis qu'un manque de zinc diminue le nombre de lymphocytes T et B et augmente le risque d'infection, note Véronique Liesse, diététicienne nutritionniste. Utilisé à des fins de prévention, le zinc réduirait de 28 % le risque de contracter un rhume et de 68 % une maladie pseudo-grippale. Les produits de la mer, notamment les poissons gras, apportent aussi de la vitamine D. Également synthétisée par la peau lors de l'exposition au soleil, celle-ci active notamment les lymphocytes T régulateurs qui empêchent le système immunitaire de s'emballer. Selon une étude publiée en 2024 dans la revue Science, menée sur des souris par des biologistes du Francis Crick Institute à Londres, Royaume-Uni, la vitamine D renforcerait même la réponse immunitaire face au cancer en influençant la composition du microbiote intestinal par l'augmentation des bactéries Bacteroides fragilis. Il y a un véritable dialogue entre le microbiote et le système immunitaire au niveau de l'intestin, qui favorise la défense de l'organisme. Toutefois, ces travaux doivent se confirmer pour savoir si cet effet bénéfique peut être transposable à l'humain, note Adrien Rossari, qui travaille sur les liens entre cette vitamine, l'obésité et le cancer. Dans cette optique du dialogue entre immunité et microbiote, il est ainsi pertinent de miser sur les aliments lacto-fermentés, riches en probiotiques, lactobacilles, bifidobactéries. Qu'il s'agisse de fruits et légumes, pickles, choucroute, kimchi coréen, olives noires, etc., ou de boissons et produits laitiers fermentés, kombucha, lait ribot, yaourt, croûte de fromage, etc., ce type d'aliment entretient en effet l'équilibre du microbiote, favorise la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires et renforce la barrière intestinale. Les bactéries intestinales permettent de produire des acides gras à chaîne courte et une couche épaisse de mucus, lequel fabrique des cellules immunitaires, immunoglobuline A, offrant un effet barrière optimal contre les agents infectieux, précise Véronique Liesse. À côté de ses alliés objectifs, le système immunitaire fait aussi face à quelques ennemis à surveiller de près. L'alcool, le sel, les sucres ajoutés, les gras saturés et les additifs, dont les émulsifiants, qui altèrent le microbiote. Des ingrédients très présents dans les plats ultra-transformés. Raison pour laquelle ces derniers tendent à favoriser une inflammation chronique de bas grade qui affaiblit le système immunitaire en le sursollicitant. En 2020, des chercheurs de l'hôpital universitaire de Bonn, Allemagne, ont montré qu'une consommation quotidienne excessive de sel pendant une semaine inhibait l'action des granulocytes neutrophiles, des cellules qui attaquent les bactéries. De même, la consommation excessive d'alcool, plus de 10 verres par semaine, réduit la production de cytokines, des molécules qui déclenchent les réactions immunitaires, et affecte le microbiote en favorisant l'inflammation et l'imperméabilité intestinale. Idem pour le sucre qui, en excès, entraîne une perte de lymphocytes TH17, des cellules de défense contre les pathogènes retrouvées au niveau de la barrière intestinale. C'était « Bien composer son assiette pour résister aux agressions ». Un texte de Sylvie Boitard et Cécile Coumeau, paru le 27 mars 2025 dans Science et Avenir.
camelot d'un jour, camelot toujours. Un texte d'Anne-Laure Janson de l'Itinéraire, paru le 20 septembre 2025 dans la presse. Le 23 septembre 2025, camelot d'un jour, l'événement de sensibilisation à l'itinérance, mobilise une trentaine de personnalités publiques pour vendre le magazine L'Itinéraire dans les rues. Parmi eux, le comédien, auteur et réalisateur Emmanuel Schwartz et la réalisatrice Louise Archambault. Tous deux se sont ouverts sur ce qui les bouscule dans la vie et comment ils le transcendent dans leur art. Je suis toujours touché quand je vois les camelots de l'itinéraire, dit Emmanuel Schwartz, artiste polymorphe de grand talent en entrevue pour l'itinéraire. On sent qu'ils sont des gens qui se battent pour sortir de situations difficiles et qui cherchent des moyens pour le faire. Sonder l'autre. Est-ce que le théâtre ou le cinéma peuvent développer notre capacité d'empathie? Le futur papa est catégorique. Ça ne sert qu'à ça. C'est la machine à rayon X, le télescope, c'est l'outil de forage émotif par excellence. Dans ses dernières créations, Emmanuel Schwartz s'interroge par le biais de l'autofiction sur sa chance d'être un artiste et de faire ce qu'il fait. Le partage, autofiction présentée au Théâtre La Chapelle en 2023, puis adaptée au cinéma l'année suivante, est une œuvre cathartique pour l'artiste en quête de sens. Là où il vacille devant son succès et se cogne aux différents masques portés, il tente de colmater ses fissures comme il peut. Je tente d'être sans pitié avec moi-même, mais c'est aussi une manière de me pardonner mes mauvais coups, une manière de trouver de l'empathie pour mon parcours, parfois chaotique. Mes années de consommation. Emmanuel Schwartz a incarné de nombreux personnages antagonistes aux bonnes mœurs. J'ai l'impression que ce sont des personnages dont la morale est plus compliquée. Pour moi, ça parle d'une population marginalisée, dit-il. Dans sa vie, il a côtoyé certaines populations en marge de la société quand il partait à la recherche de produits. « J'ai eu 6 ans de sobriété avant-hier », nous confie-t-il. « J'ai très bien connu ça, la dépendance. J'ai fréquenté les groupes d'entraide et les fraternités. J'ai reçu beaucoup d'aide de psychologues, de thérapeutes. Parce que je me suis beaucoup battu avec ces dépendances-là pendant longtemps. » Il avoue être passé proche d'un destin très distinct de celui qu'il poursuit. Je remercie quelque chose qui, pour moi, ne porte pas de nom, mais qui pourrait être mes parents, finalement, ou mon milieu. Pendant très longtemps, j'ai tenté la même équation et ça m'a mené à des cul-de-sac sur cul-de-sac. Qu'est-ce qui se passe quand tu tends la main? Le premier documentaire que Louise Archambault a développé lorsqu'elle était étudiante se déroulait dans des centres d'hébergement. Une personne schizophrène rencontrée pendant le tournage a inspiré un personnage de son premier court-métrage de fiction. De fil en aiguille, la réalisatrice a embrassé les causes sociales sans vraiment se le dire. Louise Archambault a accepté de participer à Camelot d'un jour parce que c'est une cause importante, essentielle. Je désire apporter mon soutien à la communauté. Ça se reflète dans plusieurs projets que je fais. Le long métrage, c'est mon seul outil. C'est par des histoires que je propose de tendre la main vers l'autre. Tout le monde a les mêmes besoins. Aimer, être aimé et avoir sa dignité, affirme-t-elle. Démystifier l'itinérance. La réalisatrice en est convaincue. Ça peut arriver à tout le monde de tomber dans une situation de précarité, dit-elle, pour plein de raisons différentes. Qu'est-ce qui se passe quand tu tends la main? Parfois, tu te rends compte que c'est le coup de pouce dont certains ont besoin. C'est un tremplin pour retrouver une confiance en soi. C'est aussi important de démystifier l'itinérance, selon elle. Le temps d'un été ne va pas changer le monde, c'est une fiction. Mais si ça peut faire en sorte que ça ouvre un peu la façon de percevoir les gens qui demandent de l'argent, au lieu d'avoir peur. T'as pas d'argent, c'est pas grave, tu peux juste dire bonjour, juste faire un sourire. Donner de l'espoir. Les histoires de Louise Archambault créent des ponts tout en douceur portés par des paysages bucoliques. Toujours la rencontre opère. Est-ce que l'enrobage serait trop sucré? Pour le temps d'un été, on l'a pensé comme une soupape, dit la réalisatrice. Il y a une volonté de rendre le film accessible aussi. Et il y a quelque chose en moi qui veut donner de l'espoir et de la lumière. Toute forme d'art peut décloisonner, peut ouvrir nos œillères sur une façon de voir une situation, de voir la vie. Quand une connexion se crée, t'as l'impression que le film te parle. On se rend compte qu'on n'est pas seul, conclut-elle. C'était « Camelot d'un jour, Camelot toujours », un texte d'Anne-Laure Janson de l'Itinéraire, paru le 20 septembre 2025 dans La Presse.
Les réserves d'eau atteignent un creux historique. Un texte d'Hélène Barry, paru le 21 août 2025 dans La Presse. Après 2 années de sécheresse qui l'ont forcé à réduire ses exportations, Hydro-Québec constate que ses réserves d'eau sont actuellement au niveau le plus bas jamais enregistré. L'eau emmagasinée dans ses 28 réservoirs équivalait en mai dernier à la production de 50,3 TWh, TWH, d'électricité, selon le plus récent rapport sur l'état des réserves d'Hydro-Québec. C'est moins que les 69 TWh en réserve en 2024 à pareille date, ce qui était considéré comme très bas. Les grands réservoirs d'Hydro-Québec peuvent contenir l'équivalent de la production de 178 TWh d'électricité, soit une année complète de consommation au Québec. Les 50,3 TWh représentent donc moins du tiers de cette capacité. Un TWh représente 1 milliard de kWh. Le niveau très bas des réserves force la société d'État à importer massivement de l'électricité des réseaux voisins pour laisser ses réservoirs se remplir. Avec la période de faible hydraulicité et avec les 2 contrats fermes qui démarrent l'année prochaine, on s'est doté d'une stratégie très prudente de notre stock, explique Maxime Nadeau, vice-président, contrôle des mouvements d'énergie et exploitation du réseau. La société d'État doit livrer de l'énergie ferme à New York, 10,5 TWh par année, et au Massachusetts, 9,4 TWh par année, dès 2026, d'où l'urgence de reconstituer les réserves. Depuis le début de 2025, Hydro-Québec a dû importer autant d'électricité qu'elle en a exporté. On est pas mal à l'équilibre entre import et export depuis le début de l'année, indique Maxime Nadeau. Cette stratégie a un coût pour Hydro-Québec, qui, en plus de se priver de revenus provenant des exportations, doit acheter de l'électricité sur les réseaux voisins en plein été, lorsque les prix sont les plus élevés. Le coût de cette stratégie de remplissage des réservoirs devrait être connu lors de la publication des prochains résultats d'Hydro-Québec, indique le vice-président. Il souligne que l'entreprise peut choisir d'exporter quand les prix courants sont élevés et d'importer quand ils sont au plus bas. Le prix est un facteur hyper important, dit-il. Soulagement en vue. Le prochain rapport sur l'état des stocks d'énergie doit être déposé à la Régie de l'énergie à la fin de l'année. Hydro-Québec prévoit que le niveau d'eau dans ses réservoirs sera alors remonté à 114 TWh grâce aux pluies automnales. On est à l'aise avec une prévision de 100 à 114 TWh au 1er janvier 2026, indique Maxime Nadeau. Hydro-Québec doit compter sur des réserves maximales avant la période des froids hivernaux où la consommation d'électricité est à son maximum au Québec en raison des besoins de chauffage. En 2024, Hydro-Québec avait entamé l'hiver avec des réservoirs à leur plus bas niveau depuis 10 ans. La quantité d'énergie stockée dans les grands réservoirs d'une capacité de 178 TWh était de 97 TWh. En 2025, Hydro-Québec prévoit un apport d'eau moyen supérieur aux 2 dernières années, indique son porte-parole Pascal Poinlane. Alors que l'été tire à sa fin, les réservoirs se remplissent progressivement, précise-t-il. Nous pourrons dresser un meilleur portrait de l'année 2025 à la fin de l'automne, une période qui est habituellement caractérisée par davantage d'apports en eau. Selon lui, le niveau de remplissage de ces réservoirs varie selon la région où ils sont situés. Ainsi, celui qui a la plus grande capacité, le réservoir Kanya-Pisco, est seulement rempli à 45 %, alors que celui de La Grande est rempli presque à ras-bord, indique-t-il. Dans le nord du Québec, certains réservoirs ont des niveaux sous les moyennes historiques, alors que d'autres réservoirs atteignent des niveaux qui sont dans les moyennes historiques, résume le porte-parole. Au sud, malgré le temps sec observé cet été, le niveau d'eau de nos réservoirs, le réservoir Gouin, par exemple, est nettement au-dessus de la moyenne, en raison des pluies abondantes du printemps, précise-t-il. C'était « Les réserves d'eau atteignent un creux historique ». Un texte d'Hélène Barry, paru le 21 août 2025 dans La Presse.